Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter là, faut essayer.
Quand des gens ont donné de leur sueur pour faire des bénéfices à une entreprise, et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Wesh la famille, Radio Canu, lundi, la plus rebelle des radios. Donc aujourd'hui, ça va être sans transition la CGA qui va nous parler du week-end un peu violent que la Croix-Rousse a vécu. Ensuite, on va aborder le pape. Et puis, on va parler également des enfants de 9 ans qui vont en prison aux Philippines. On va également parler de Servier, du laboratoire qui est toujours impuni, de la sécurité sociale, des primaires de la droite et de l'extrême droite, et chose trop rare, du procès des flics, ainsi que de la mémoire des Canus, Radio Canus. Et de notre président de région, Laurent Wauquiez, qui a fait encore des siennes. On finira par le traditionnel agenda.
Bonsoir à tous. Dans un premier temps, on a décidé ce soir, un peu exceptionnellement, de revenir sur ce qui s'est passé ce week-end, place Colbert, et notamment à la Plume Noire, parce que tout ça se passe dans un contexte un peu délétère, on va dire, en France actuellement. Pour vous redonner un peu des éléments. Le 11 novembre à Paris, il y avait une commémoration en fait du 11 novembre qui a été faite par l'Action française, qui est un groupe issu d'un courant de pensée royaliste et nationaliste. Et après cette commémoration, en fait, les personnes fascistes qui étaient présentes ont tabassé les personnes qui étaient venues assister, voir un peu de loin ce qui se passait, parce qu'ils trouvaient pas ça tout à fait normal. Samedi 19, à Lille, on a eu une centaine de personnes, donc 1200 selon les syndicats, 600 selon la police, comme d'habitude, qui défilaient dans les rues de Lille, en fait, en demandant la fermeture d'un bar d'extrême droite, le bar de la Citadelle. Et puis finalement, à Lyon, il y avait un rassemblement de catholiques, enfin ultra-catholiques, on pourrait dire, et juste à côté finalement de la Plume Noire, qui est un local de la CGA. Et il y a eu un petit reportage qui a été fait, donc on va vous le passer dans un premier temps, et puis après on va laisser la parole à des membres de la CGA qui vont vous expliquer un peu ce qui s'est passé et ce qu'ils comptent faire finalement par rapport à cet événement.
Un rassemblement à Colbert parce qu'il y a une église qui est là depuis des années qui ne sert pas et ils sont contre la reconversion de l'église. Sauf que ça a été interdit par la préfecture et ils sont venus quand même et la police leur a rien dit quoi.
c'est une place publique. D'accord, je suis d'accord avec vous.
Place mais... Colbert, c'est public, vous, c'est vous, pas privé. Vous, vous alors maintenant, je vais terminer vous dire, il y a une procédure judiciaire en cours. D'accord. Les choses vont être faites. Non, 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 les choses sont, les choses sont faites.
Je vous écoute,
d'accord. Vous verrez.
Non, bah, oui, mais c'est pas normal. Parce que là, là, là c'est...
On patiente, là, reste là.
Monsieur, voilà. Monsieur, là,
vous
c'est... Là, c'est
nous, ne nous demandez pas de reculer.
Là, c'est de la peine.
Oh, oui, ils avancent.
On les a fait reculer aussi.
Non, 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 ils sont toujours même en
train. Regardez pas, derrière vous. On les a fait reculer. C'est pas également, vrai. Les choses sont dites.
Vous êtes un menteur.
Vous voir.
Vous êtes un menteur.
Pardon.
Regardez derrière vous, ils sont toujours au même endroit.
Voilà, mais c'est ce qui va se passer.
C'est que c'est interdit, il y a un trouble manifeste.
Ne me demandez pas, ne me dites pas ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à faire.
Les gens, il y a des gens armés, il y a un temps sur la place, dans notre quartier, des gens
non,
armés.
Les gens ne sont pas armés. Un parapluie, c'est pas une arme, vous connaissez les textes de loi.
Des casques et des cagoules, c'est quoi?
Les casques de moto, c'est pas une arme.
Je pense que si vous fouillez les...
Dans les manifs, on rentrait avec un casque de vélo. On nous empêchait de rentrer pour la loi El Khomri. Et d'un moment, maintenant, des casques de moto, c'est plus rien.
Les gens qui viennent en moto ici, ça ne sera pas retenu par un magistrat.
Non, mais regardez, monsieur.
Voilà.
Bon, à part lui, mais il y a qui de cagoulé ici?
Alors, moi, je ne suis pas cagoulé, je ne suis pas armé.
Non, et vous chantez faux, par contre.
Eh bah, bien, oui, j'ai le droit. C'est, est-ce que je vais, vous allez me faire une garde à vue pour avoir chanté
vrai,
faux sur l'espace public?
Bon, alors, vous voulez venir où
là? Que nous, on était là-bas, de l'autre côté. On faisait un pique-nique, on jouait aux boules.
Ouais.
On a été obligé de se replier parce qu'on ne s'est pas senti en sécurité. Il y a une trentaine de mecs cagoulés et il y en a certains qui sont armés.
De quoi?
Est-ce que c'est normal que moi, je suis habitant du quartier, des gens qui ne sont pas habitants du quartier, ils me fassent partir du...
Il y a des choses qui sont en cours. Laissez la loi être appliquée. C'est pas... Vous savez, ce n'est pas votre travail, c'est le travail de la police de le faire. La police, elle le fait. J'ai pas à tout vous dire, c'est comme ça.
Non mais, il y a une manifestation qui est interdite, elle a quand même lieu.
Vous n'êtes pas représentant de l'État, donc vous laissez les choses se faire et les gens faire leur travail. Je vous ai dit ce que je vous avais à vous dire, on va pas discuter plus longtemps.
Info Canu reportage.
Bon, en fait, j'étais en vacances dans le Jura et j'ai décidé d'emmener un pote à moi du Jura, un pote vigneron, punk par contre. Je pense que c'est pas un hasard d'ailleurs si on se retrouve ici. Et puis j'ai un grand frère qui est un peu chaud, à mon avis militant d'extrême gauche, vu les bouquins que j'ai vus sur sa table
c'est
de nuit.
Qui t'a ramené Place Colbert?
Et il m'a ramené Pascal Bert. On sortait tout juste d'un repas tranquillou dans une petite brasserie lyonnaise. Et je me suis retrouvé là, pas par hasard, vu que mon frère est quand même pas mal impliqué, j'ai l'impression. Et voilà, on a décidé de rester parce qu'on voit bien ce qui se passe quand même. On voit bien que les CRS sont tournés vers...
Ils reviennent.
Alors... En fait, Place Colbert, on était prévenu qu'il allait avoir un rassemblement de cathos intégristes qui voulaient sauver leur église qui tombe en ruine, là. Donc on pensait qu'il y aurait Action Française et on suspectait qu'il y aurait d'autres FAF beaucoup plus vénères. C'était le cas. Le truc, c'est que le rassemblement, en fait, il était normalement annulé. La préf a dit qu'il l'annulait. Ils sont quand même venus, on a commencé à s'alarmer quand on a vu une vingtaine monter, ils nous ont mal regardé, on va dire, ils étaient casqués, on sentait qu'ils cachaient des trucs sous leur veste.
Voilà, ils sont venus matosser. Au début de l'après-midi, on a vu monter une vingtaine de faf, casques, cagoules et baramines qui sont passés devant la plume, qui nous ont fait des fucks, etc. Quoi.
C'est quoi la plume?
La plume Nord, c'est une librairie libertaire du coup, qui est dans les pentes de la Croix-Rousse, à 50 mètres de la place Colbert où il y avait le rassemblement. Voilà, c'est un lieu militant depuis des années. Avant, elle était aussi dans les pentes, mais plus du côté de comment ça s'appelle? Du Jardin des Plantes, ouais, rue Pierre Blanc, c'est ça. Et là-bas, du coup, il y avait déjà eu, il y a 20 ans, un incendie par les FAF aussi de la plume.
Du coup, on a commencé à appeler des potes, il y a les antifas d'un peu partout qui sont arrivés et tout. Bon, sur Colbert, ça a passé, ils chantaient leur conneries, ils ont même fait une messe apparemment. Enfin bon, il y a eu un peu de provoque des deux côtés peut-être, mais enfin, rien de plus, il n'y a pas eu d'affrontement.
Siamo tutti antifascisti!
Chiamo tutti antifascisti. Chiamo tutti antifascisti.
Ils sont... Donc nous on avait posté des gens pour regarder un peu partout et puis d'un seul coup on en a vu une... d'abord une vingtaine monter, puis en fait ils étaient beaucoup plus quoi, et on s'est barricadé à l'intérieur de la plume. Et le truc
vous,
c'est...
Vous, pour récapituler, vous étiez à ce moment-là à la plume noire,
c'est ça.
Combien
À la plume noire on était entre 15 et 20, je dirais une vingtaine à peu près.
Et là, voilà. Vous voyez des gens arriver, c'est ça, armés.
Bah en fait, mais on n'était pas pareil, c'est-à-dire qu'on savait qu'ils montaient, on savait qu'il y avait des gens qui montaient, on savait. Du coup on a eu le temps de se préparer un petit peu à notre manière. Et en fait, quand ils sont arrivés en haut de la rue, qu'on les a vus, on était devant près. Mais en fait, c'était beaucoup plus nombreux à nouveau, donc on s'est barricadé à l'intérieur et voilà.
D'accord. Et vous avez fait comment pour vous barricader ?
Au départ, on n'était pas parti pour se barricader. Du coup, il y en avait qui sortaient. Et là, on commence à sortir de la plume en fait. Et on voit des personnes arriver, donc personnes casquées, armées. On savait déjà qu'ils allaient venir, donc c'est pas super surprenant. Le truc qui est surprenant, c'est leur nombre en fait, qu'ils sont très nombreux. Et du coup là on commence à tout rentrer, on commence à baisser le rideau de fer. Alors apparemment il y aurait eu des gens dehors alors que c'était complètement faux. Du coup il y a eu un mouvement de panique, on a légèrement relevé. Et ensuite on a rebaissé le rideau de fer. Et là ils ont commencé à taper dessus et tout ça. Le rideau de la vitrine il s'est fait plier, enfin il s'est fait, oui, il s'est fait enfoncer. Et là ils essayaient de rentrer, puis ils ont réussi à mettre la table bien dessus. Ouais, voilà.
Qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est pour Radio Canu?
Ah là, on renforce la vitrine éclatée par des planches de contreplaqué. Après, dire la matière que c'est des contrecollages, ouais, voilà.
Pour remplacer la vitrine pétée. Voilà.
Pour que ce soit inaccessible.
Info Canu.
Bon bah voilà, vous venez d'écouter le reportage en fait qui s'est passé samedi 19 place Colbert et à la plume noire. Et voilà, tout ça pour dire aussi que bon, on est en plein état d'urgence et qu'on voit bien qu'il y a deux poids deux mesures, qu'il y en a qui se sont fait chasser pendant la loi de travail. Et puis là, pour le coup, c'est illégal, on n'a pas le droit de se rassembler, mais il n'y a pas de problème apparemment, les flics sont là, ne font qu'encadrer, etc. Donc avec nous, on a trois membres de la CGA et on va leur laisser la parole pour qu'ils nous expliquent un peu leur point de vue.
Donc bonsoir à toutes et tous. Donc moi je vais commencer juste par vous lire le communiqué qu'on a écrit là ce week-end suite à ce qui s'est passé samedi soir. Puis après avec les camarades on va expliquer un petit peu où on en est, ce qui va arriver dans les jours qui viennent. Donc voilà, attaque fasciste sur la Croix-Rousse et contre la librairie La Plume Noire. Ce samedi 19 novembre 2016, en milieu d'après-midi, des catholiques intégristes et d'autres militants d'extrême droite appelaient à un rassemblement place Colbert pour s'opposer au projet de reconversion de l'église Saint-Bernard, donc qui est actuellement désaffectée, en centre d'affaires et exiger qu'elle soit confiée à la fraternité Saint-Pie-X, donc une organisation catholique particulièrement réactionnaire et proche des milieux fascistes. Ce rassemblement a fait l'objet d'une interdiction de la préfecture qui invoquait dans son communiqué le risque de troubles à l'ordre public et renvoyait honteusement dos à dos fascistes aux méthodes violentes et militants progressistes et antifascistes présents dans le quartier. Donc le rassemblement a pourtant eu lieu malgré l'interdiction, comprenant des membres du GUD, donc de la faction française et du Parti nationaliste français, lourdement casqués et armés, qui ont fait une première apparition devant notre local, donc la librairie La Plume Noire, en début de l'après-midi. Ces militants fascistes, ouvertement préparés à mener des actions violentes, n'ont pas été inquiétés ou contrôlés par les nombreux policiers présents, qui ont d'ailleurs assuré la protection du rassemblement, en tenant à distance militantes et militants antifascistes et autres habitantes du quartier. Nous ne nous étonnons malheureusement pas d'une telle complaisance, y compris dans le cadre de l'état d'urgence, alors même que celui-ci sert notamment de cache-misère à la répression accrue des mouvements sociaux progressistes, comme on a pu le voir lors du dernier mouvement social. Et donc, rappelons qu'il y a quelques semaines, la police manifestait de nuit dans les rues lyonnaises, main dans la main avec cette même extrême droite. Vers 18h, alors que le rassemblement des intégristes s'était dispersé, donc une vingtaine de fascistes, toujours massivement équipés, ont monté les pentes de la Croix-Rousse et ont brutalement convergé vers la Plume Noire, où se trouvaient une douzaine de nos camarades. Donc les personnes présentes dans le local ont baissé le rideau pour se protéger, mais les fascistes ont réussi à la relever et à enfoncer un autre volet métallique, détruisant également les vitres qui se trouvaient derrière. La résistance de nos camarades a empêché donc les fascistes de pénétrer physiquement dans le local, mais n'a pu éviter donc les dégâts matériels que sont la destruction de la totalité des vitres et d'une partie du volet. Plusieurs personnes ont également subi des blessures légères durant cette agression qui a duré de longues minutes. Donc, notamment, à cause de projectiles, pierres, outils métalliques, bouteilles en verre lancées par les fachos. Lors de l'arrivée, puis de leur départ, les fascistes ont hurlé leur slogan habituel, on est chez nous, la France aux Français, et mort aux Juifs, comme signe de ralliement et de dispersion. Donc, cette attaque odieuse n'est pas un fait isolé. Près de 20 ans après l'incendie du précédent local de la Plume Noire par l'extrême droite, donc c'était en 1997, elle s'inscrit dans la montée en puissance actuelle de l'extrême droite et du fascisme, qui se traduit par une multiplication des agressions contre les minorités, des militantes et des militants du mouvement syndicaliste, féministe, antiraciste, LGBT et progressiste. Ces attaques sont favorisées par l'ouverture de nouveaux locaux fascistes dans plusieurs villes françaises, donc comme à Lille et chez nous à Lyon, qui servent de lieu d'organisation à cette stratégie d'intimidation fasciste. À Lyon, quand même, il y a maintenant quatre locaux. Il y a le Parti nationaliste français, il y a le GUT, l'Action française et les Identitaires qui ont pignon sur rue. Donc sans réaction réelle des autorités et de la ville de Lyon. Donc face à ce constat, nous réaffirmons que nous ne nous laisserons pas intimider et nous en appelons à la solidarité et à une réaction large de toutes les composantes du groupe du camp progressiste.
Alors comment vous avez vécu ça, vous, qui étiez présents sur les lieux ? Super bien. Non, je déconne. Ça fait quand même bizarre de se retrouver avec des gens qui sont deux fois plus nombreux que nous, qui débarquent, on les a vus arriver, ils allaient assez vite dans la montée Saint-Sébastien. Ils étaient préparés, on s'est rapatrié dans la Plume Noire et c'est bizarre.
On a protégé comme on a pu. Après, la question surtout, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, où ils ont quand même passé l'après-midi sur la place à côté. Quand les fascistes sont montés, il y avait déjà les intégristes qui étaient une quarantaine, je crois, sur la place Colbert, en train de prier avec des moines, etc. Voilà. Quand ils sont montés, ils sont déjà passés devant la Plume, effectivement, où ils ont fait de la provocation. Et après, quand ils étaient sur la place, ils avaient effectivement des barres à la main, etc. Et les habitants du quartier, eux, quand ils traversaient la place tout l'après-midi, se faisaient fouiller par la police au cas où ils avaient, dixit un policier, un briquet de trop dans les poches ou des choses comme ça. Et quand ils sont montés, on entend des gens dans le reportage qui disent « on savait qu'ils allaient arriver ». Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des habitants du quartier qui connaissent l'association, qui ont appelé en disant « attention, il y a des fascistes armés qui sont en train de monter les pentes, on pense que c'est pour vous ». Ce qui nous a permis au moins de fermer les persiennes qu'on pouvait fermer, donc celles où il y avait la porte évidemment on pouvait pas parce qu'on n'allait pas prendre le risque qu'il y ait quelqu'un dehors. On savait qu'il pouvait aussi avant même d'atteindre la Plume commencer à courser des gens. Après c'est des moments qui sont évidemment très violents parce que se retrouver enfermé dans un local à devoir le défendre avec des espèces de types en face, fans de violence qui ont aucune limite et où on sait absolument pas où ils vont s'arrêter. Bon, en l'occurrence, le local, il a été défendu, ce qui continuera de se faire de toute façon. Au niveau de la CGA, de façon générale, et là, on peut peut-être commencer aussi sur les suites, c'est qu'on... Pour nous, la lutte antifasciste, elle se fait au travers des luttes progressistes en général et que c'est comme ça qu'on construit des choses durables pour faire reculer le fascisme au travers de luttes féministes, LGBT, au travers de luttes syndicales, au travers de luttes contre le capitalisme, contre les inégalités, contre le racisme. Ça c'est la partie durable. Après, à partir du moment où on est confronté aux fascistes, on estime qu'il peut être nécessaire de se défendre et au moins de poser des limites. Et à Lyon, en l'occurrence, on n'a pas le choix parce que de toute façon, comme dans plein d'autres endroits, les pouvoirs publics ne réagissent absolument pas. Effectivement, on l'a dit aux ouvertures de locaux de fascistes, mais également aux agressions. Il y a même les gens qu'on écoute d'habitude, c'est-à-dire par exemple les commerçants
c'est quand même une profession un peu majoritairement de droite, et dans le Vieux-Lyon, on ne sait pas le fer de lance de la Révolution. N'empêche qu'il y a des collectifs de commerçants contre l'extrême droite qui s'énervent contre la préfecture sans arrêt, parce que la préfecture ne réagit pas au fait que les fascistes régulièrement vont casser les terrasses, agressent les gens, etc. Et que ce n'est pas bon pour le commerce. D'habitude, le commerce, quand même, il est défendu par la ville. C'est pas la première fois qu'on essaie d'alerter les pouvoirs publics là-dessus, qui bougent toujours pas. Là, bon, il y a même des élus qui comprennent absolument pas le fait que la préfecture ait laissé faire ça tout l'après-midi. La déclaration de la préfecture, on s'est demandé aussi si c'était pas aussi un peu pour faire monter la sauce, parce que publié la veille d'un rassemblement fasciste, que juste à côté, il y a des extrêmes gauchistes qui pourraient être terriblement violents, et que donc on a peur d'un affrontement. C'est aussi une façon de leur dire, vous vous souvenez, ils sont à côté. Enfin, bon, voilà, du coup, effectivement, on n'a pas pu faire grand-chose d'autre que de protéger le local. Et puis, bah, je sais pas, pour les suites politiques, s'il y a quelqu'un d'autre qui...
Oui, bon, du coup, on va pas rester comme ça, les bras ballants, à rien faire. Du coup, on prépare bien sûr une réponse politique pour pas laisser passer ça et pour montrer en fait au pouvoir public qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ne veulent pas laisser passer ça. Donc, on prévoit de faire un rassemblement et ou une manifestation plus importante dans les jours et semaines à venir. On tiendra au courant, bien sûr, de quand est-ce que ça va se faire et de comment ça va s'organiser. Et du coup, on va aussi lancer un appel à soutien, parce que forcément, du coup, on n'a plus de vitrine. On fait des réunions maintenant derrière des planches de bois. Et donc, il va falloir sécuriser un peu le local pour se protéger soi-même, quoi, et pouvoir continuer à tenir nos activités, ce qui est le plus important pour nous. C'est-à-dire qu'il est hors de question que, parce qu'on s'est fait attaquer par des fascistes, on cesse. Il est hors de question de céder à la peur, de céder au climat de terreur qu'ils veulent mettre en place. Donc, voilà, on va faire tourner un appel à soutien. Donc, vous pourrez nous soutenir de différentes manières, envoyer de l'argent, passer nous voir, etc., etc. De toute façon, tout ça, c'est relié par nos réseaux, sur les réseaux sociaux, sur notre site, voilà.
Sur Rébellion aussi.
Sur Rébellion, bien sûr. Que dire d'autre?
On a également lancé un appel à témoins. Donc, on va donner après une adresse mail. Le principe, c'est que, voilà, bon, nous, on a décidé de porter plainte. Alors, c'est sûr qu'à l'extrême gauche ou chez les anards, etc., on se pose toujours la question, est-ce qu'on porte plainte ou pas, etc. Bon, quand il y a des contextes d'agression extrêmement violente comme ça, il y a un moment où il faut être lucide aussi, où une des choses qui peut poser des limites à des fascistes, c'est aussi une condamnation judiciaire. À Lyon, bon, on sait qu'il y a quand même eu énormément d'agressions de gens, que ça soit des militants ou simplement des gens qui ont eu le malheur de croiser des fascistes au mauvais moment et qui ont pas la tête qui convient aux fascistes. Voilà, donc c'est des choses où quand même il y a nécessité de témoignages. Ce qu'on tenait à dire aussi, c'est que les informations qu'on a eues, c'est que toute personne qui était présente, qui les a croisées, etc., peut porter plainte pour agression. Il y a la question toujours de passer à l'hôpital, quand même, voir un médecin avant. Mais il ne faut pas hésiter à le faire, parce que c'est quand même des choses qui les freinent beaucoup, une fois qu'ils ont beaucoup de condamnations judiciaires. Bah, par exemple, quand il y en a un qui se pointe, là, c'est pas par hasard, le rassemblement était interdit, il y a certains d'entre eux qui ne sont pas venus, parce que ils ont derrière eux des condamnations, et que s'ils viennent à un rassemblement interdit, ils prennent le sursis qui leur pendu. Alors, c'est pas notre solution politique du tout, dans un autre monde, mais en attendant de faire la révolution et que les gens puissent vivre ensemble, il y a des moments où effectivement on n'a pas tout à fait le choix de passer par ce biais-là.
Oui, du coup, si vous étiez là, si vous êtes du quartier, si vous avez vu quoi que ce soit, entendu, on cherche aussi des photos et des vidéos amateurs qui ont pu être prises pendant les événements, que ce soit pendant le rassemblement ou après pendant l'attaque du local, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse soutienplumenoir@riseup.net, je répète, soutienplumenoir@riseup.net. Ou aussi passer nous voir au local La Plume Noire, où vous pouvez plus ou moins nous trouver en ce moment, mais d'ici une semaine ou deux, ça devrait être bien mieux pour nous trouver au local.
Pour l'instant, il faut frapper au volet, hein, du coup. Il n'y a pas de sonnette et on ne peut pas laisser la porte ouverte. Voilà. Parce qu'on n'a plus de porte, en fait. Bah en tout cas, on vous remercie beaucoup d'être passé, parce que pour nous, c'est quand même un acte grave, hein, ce qui s'est passé. Et c'est surtout, comme on disait, il y a un problème de contexte, là, on est en état d'urgence, et qu'on autorise finalement des gens d'extrême droite à être ultra-violents comme ça, alors qu'on fait passer des syndicalistes, des gens qui manifestent pour leurs droits pour des ultra-violents, c'est quand même hallucinant. C'est vraiment deux poids, deux mesures. Et puis... Je note juste au passage, dans votre communiqué, à un moment donné, on entend « mort aux juifs ». Donc apparemment, ces identitaires-là auraient crié ce slogan. Moi, personnellement, moi, ça me fait super peur, dans le sens où l'Allemagne nazie, elle est pas loin, là. Dire « mort aux juifs » comme ça, impunément, ouvertement, en étant d'extrême droite, dans le contexte actuel, etc., moi, ça me rappelle complètement comment, et j'étais pas née pourtant, mais j'ai lu des livres d'histoire, heureusement, comment le nazisme est monté, en fait, en Allemagne, à cause de problèmes économiques, etc., et puis on a commencé à stigmatiser des personnes. Bon, nous, c'est un peu plus les musulmans, mais bon, voilà. On vous remercie, en tout cas, et puis merci, on vous souhaite bon courage.
Ah oui, merci. Peut-être avant de finir, quand même, je voulais aussi, au nom de la CGA, quand même, qu'on remercie les groupes politiques ou individus ou syndicats qui sont venus nous soutenir pendant ce week-end, qui nous ont envoyé des messages de soutien. Voilà, vraiment les remercier. C'est des trucs de solidarité qui font du bien.
Et c'est clair qu'il est plus que jamais temps d'être tous unis face à ça, quoi.
Et donc, on rappelle le mail pour les témoignages, mais aussi pour voilà, tout ce qui est soutien, etc.
Oui, donc le mail c'est soutienplumenoir@riseup.net.
Voilà.
Merci.
Alors on va continuer avec toutes les informations. Donc comme d'habitude, on va commencer par notre petit tour du monde. Pour certains, donc on vient de voir un magnifique exemple de régression culturelle, et pour d'autres, pendant ce temps-là, essaient de faire une révolution culturelle. Donc on a eu une magnifique lettre ouverte par le pape. Donc en concluant l'année jubilaire de miséricorde, le pape appelle à une révolution culturelle pour pousser la mentalité de l'Église catholique vers encore plus de compassion pour une situation difficile. Alors, donc, en quoi consiste, pour le pape, une révolution culturelle? Dans une lettre apostolique intitulée « Miséricorde et paix », publiée par le pape lundi 21 novembre, au lendemain de la clôture de cette année, François, le pape, confirme de manière définitive plusieurs mesures exceptionnelles prises pendant ce jubilé, dont le pardon pendant ce jubilé. Et donc, ces mesures, en quoi ça consiste? Notamment, on pourrait s'attendre à une véritable révolution interne ou une autodissolution de l'Église, mais il s'agit simplement, en fait, du pardon possible de l'avortement qui est désormais délégué à tout près diocésain. Donc, je cite le pape, « Je voudrais redire à toutes mes forces, écrit le pape François, que l'avortement est un péché grave, parce qu'il met fin à une vie innocente. Cependant, je peux et je dois affirmer avec la même force qu'il n'existe aucun péché qui ne puisse rejoindre et détruire la miséricorde de Dieu, qu'elle trouve un cœur concret qui demande à être réconcilié avec le Père. » Donc, traduction, on continue à culpabiliser toutes les femmes qui vont se faire avorter. Ça reste un péché mortel. Mais à partir de maintenant, n'importe quel prêtre peut vous pardonner et vous pourrez quand même finir au paradis. Donc, cette logique de la culpabilisation continue, mais au final, on a quand même le droit d'être pardonné, d'aller faire mieux. Il précise donc, en fonction de cette exigence et pour qu'aucun obstacle ne s'interpose entre la demande de réconciliation et le pardon de Dieu, je concède à tous les prêtres à partir de maintenant, en vertu de leur ministère, la faculté d'absoudre le péché d'avortement, ce que j'avais concédé pendant le temps limité du jubilé est étendu désormais dans le temps. Donc en clair, en fait, un truc qu'il a mis en place pendant quelques mois, en fait, il l'autorise pendant tout le temps. Et à partir de maintenant, donc dans l'Église catholique, l'absolution pour un avortement était jusque-là du ressort de l'évêque diocésain qui déléguait souvent ce pouvoir à un prêtre expérimenté. Donc c'est sérieusement, donc voilà, il faut voir ce que c'est qu'une révolution culturelle pour l'Église catholique. C'est simple, les prêtres ont le droit d'absoudre les personnes qui seront allées avorter. Mais il faut rappeler aussi qu'une deuxième révolution a eu lieu en même temps, car il faut nommer la question très polémique de la communion des divorcés remariés. Donc ces personnes qui avaient divorcé, qui maintenant se sont remariées, ont à nouveau le droit de venir tous les dimanches faire la queue l'un après l'autre pour manger un morceau de carton distribué par le prêtre local. Donc voilà, la deuxième révolution culturelle, attention, prônée par l'Église. Mais il faut pas croire après qu'une telle révolution puisse aller dans un sens d'une telle ouverture. Parce que en même temps, pour que tout le monde soit content, pour pas avoir de soucis de n'exclure personne du pardon divin, le pape prolonge aussi la validité des absolutions délivrées par les prêtres intégristes de la fraternité sacerdotale Saint-Pidis, dont ceux qu'on a pu voir sur la place là récemment, communauté fondée par le père Marcel Lefebvre, qui a rompu avec l'Église en 1988. Donc en clair, simplement, en fait, le pape a continué à garder tous les tarés qui avaient fait sécession et donc qui vont fracasser les copains. Et en échange, la seule avancée, c'est le droit, peut-être pardon pour des personnes qui ont avorté, le droit d'aller manger un morceau de pain tous les dimanches. Super la révolution culturelle selon Élise. Il faut qu'ils aillent à la messe, bien sûr.
On va passer au national.
Oui, alors cette semaine, on a la sortie d'un film sur le scandale dit du Mediator. Donc, il s'appelle La fille de Brest. Et rappelez-vous, donc, la molécule Benfluorex était prescrite à tour de bras par certains médecins en guise de coupe-faim pendant les années 2000 et un peu avant, dans les années 90 aussi. Donc, c'est un médicament qui était d'abord conçu pour faire perdre du poids aux diabétiques, mais son utilisation s'est généralisée aux personnes souhaitant perdre du poids sans que ce soit spécialement recommandé dans l'utilisation du médicament. Donc, chaque année, c'est 300 000 patients qui se sont fait prescrire ce médicament, donc depuis son introduction, avant 2009. Donc, il est sorti dans les années 70, en 76. Et il a été retiré du marché en 2009. Donc faites le calcul, ça fait un paquet de monde. Et donc ces gens se font prescrire ce médicament qui a causé des valvopathies et de l'hypertension pulmonaire. Donc la valvopathie, ça peut être mortel. L'hypertension pulmonaire, c'est incurable. Donc c'est très très grave. Et on estime aujourd'hui qu'il y a eu entre 1000 et 2000 morts et des dizaines de milliers de maladies déclarées. Donc, le laboratoire Servier, qui était leader du marché, notamment donc avec le médicament qui s'appelait le Mediator, n'a à ce jour pas été condamné, puisque Jacques Servier, qui devait comparaître au procès en 2015, est en fait mort en 2014, donc il n'a pas pu comparaître. Mais les procédures sont toujours en cours. De son vivant, Jacques Servier a toujours nié le nombre de morts, en admettant que 3. Donc sur 1300 estimés. Et il a de plus plaidé pour une dérégulation du marché des médicaments et pour le fait que l'État s'en mêle moins, en fait. Parce que visiblement, ça marche mieux quand tout est dérégulé. Donc le film qui sort mercredi 23 novembre retrace la lutte de la pneumologue Irène Frachon, qui a fini par réussir à dénoncer l'usage du médicament et à le faire retirer du marché, donc en 2009. Il est réalisé par Emmanuel Berco, et l'actrice principale, c'est Sid Babett Knussen, qui est connue pour ses rôles dans Borgen ou encore Westworld, qui sont deux super séries. Voilà.
Là, on va vous parler lutte des classes à travers l'annonce d'un autre film sorti en salle. C'est La Sociale de Gilles Perret. Donc, c'est un film documentaire sur la sécurité sociale. De Gilles Perret, donc documentariste qui a fait quand même déjà deux films qui ont eu un peu du succès, en tout cas une estime critique. Et bon, l'affiche, si on la regarde, ça donne pas très très envie parce que ça fait un peu film de seconde zone sponsorisé par la CGT. Et en fait, pas du tout. Le film est bien. Il est vraiment bien. Moi, j'étais très très surpris. Il est pas du tout sponsorisé par la CGT. Il est très très peu financé. Et ils ont dû mettre en place un crowdfunding pour pouvoir réaliser le film. Donc, oublions l'affiche moche et allons voir le film. Mais moi, je vais vous parler c'est l'occasion de vous parler un peu de la sécurité sociale, institution où on ne sait pas trop, on a été notamment très désinformé par les politiques qui nous ont un peu détricoté ce truc d'année en année. Donc à la libération, le prolétariat, après une période d'exploitation extrême, est en position de force. La bourgeoisie industrielle a collaboré, les communistes ont été importants au sein de la résistance, le PC fait 30% aux élections, et il y a 5 millions d'adhérents à la CGT.
En France, hein. En France, on précise.
En France, en
ailleurs,
France.
Il y a des anarchistes.
Que demande le peuple? En premier lieu, se débarrasser de l'angoisse du lendemain, c'est la grande phrase. Donc l'angoisse du lendemain, c'est la vieillesse, c'est la maladie, c'est une jambe cassée, et c'est toutes ces choses qui font qu'on vit pas serein. Et là, il y a un protagoniste, c'est le protagoniste principal du film, même si il apparaît pas physiquement dans le film puisqu'il est mort, c'est Ambroise Croizat, donc fils d'ouvrier, travaille lui-même en usine dès l'âge de 13 ans. Son père est appelé sous les drapeaux en 1914 et il devient alors soutien de famille. Tout ça en région lyonnaise. À la fin de la guerre, il anime les grandes grèves de la métallurgie lyonnaise. Il adhère au PC à sa fondation en 1920. Et il est député communiste du Front Populaire. Mais il est arrêté et emprisonné en 1939, au début de la guerre, parce qu'il est communiste avec plein d'autres députés communistes. Et il déchu de son mandat et est envoyé en prison, puis au bagne à Alger. Donc le bagne à Alger, c'était ce qu'on réservait aux plus féroces, aux plus gros opposants au régime de Vichy. En 43, il est libéré, il milite au sein de la CGT clandestine, et puis bon, à la libération, il est nommé ministre du Travail. Alors là, il faut quand même se dire qu'à la libération, c'est De Gaulle le chef de l'État, mais il n'est pas en position de force, parce que lui, c'est quelqu'un de droite, mais que la gauche, comme on vous a dit, elle fait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et le rapport de force est en sa faveur, et il doit mettre en place cette sécurité sociale. Bon, le rapport de force est en sa faveur, en la faveur des travailleurs, puisqu'il n'est pas tout seul, mais ça ne va pas forcément durer. Et les travailleurs se doivent de créer une institution durable, solide, indestructible, parce que la peur du lendemain de d'autres factions qui prendraient le pouvoir, il faut qu'ils bâtissent du dur. Et donc, là, qu'est-ce que c'est la sécurité sociale ? C'est des caisses gérées par les syndicats ouvriers. Déjà, ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. C'est des caisses gérées par les syndicats ouvriers dont le budget est plus de deux fois supérieur au budget de l'État. Et ça, c'est révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire, c'est de créer des institutions économiques...
Gérées par les ouvriers.
Autogérées par les ouvriers, gérées par le peuple, en fait, en direct. Et c'est ce qui fait peur à la bourgeoisie, parce que la bourgeoisie, pendant cinq siècles, elle s'est évertuée à créer des institutions économiques contrôlées par elle-même, la banque, enfin, avec son ancêtre l'usure. Et là, le peuple le fait. Et c'est ça qui est révolutionnaire. Et c'est aussi la preuve de la capacité du peuple à gérer le politique, l'économique, et sa réussite sans la bourgeoisie. On peut parler avec ce genre d'exemple de la commune pour gérer le politique, la commune de Paris, ou plus récemment l'expérience des LIP, les usines LIP où ils avaient repris l'entreprise et ça fonctionnait très très bien, ou Notre-Dame-des-Landes où ils socialisent la production et ils sont autonomes. Donc la Sécu, on reprend ces quatre grandes branches. C'est la branche maladie, la branche accident du travail, maladie professionnelle, la branche vieillesse et retraite, et la branche famille qui comprend handicap et logement. Et c'est la CGT qui est missionnée par Ambroise Croizat et en leur disant qu'il faut que ça réussisse à tout prix. C'est une question de si ça ratera pour toujours. Et en quelques mois, ils mettent en place partout en France des caisses gérées par les ouvriers. Des caisses, c'est des caisses physiques, hein, c'est des billets à l'époque, hein, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de logiciel. Et le conseil d'administration est composé à deux tiers par les syndicats de travailleurs et à un tiers par le patronat. Croizat, il meurt en 51, il est enterré au Père Lachaise avec 1 million de personnes à son enterrement à Paris. Quand on voit les images, parce qu'il y a des images, ça ressemble vraiment à la Révolution, hein, 1 million de personnes pour un enterrement au Père Lachaise. Voilà. Bien sûr, il y a des réticences du patronat, des indépendants, du syndicat des médecins, de Gaulle, il se barre. Mais bon, la droite est toujours là, la droite et la gauche collabo, et on va avoir une destruction qui va être programmée, qui va être méthodique de cette sécurité sociale. Donc celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est une sécurité sociale qui a été complètement détruite en plusieurs étapes. Il y a eu en vrac la parité 50-50, c'est-à-dire qu'on met au conseil d'administration moitié syndicat de patron, moitié syndicat d'ouvriers, et donc du coup il suffit au syndicat de patron unique de corrompre un des syndicats les plus collabos, et voilà, ils ont la majorité. Et
la CFDT
par exemple, mais ça peut être d'autres syndicats.
Ah bah là, ça peut être FO. Hein.
Des fois, c'est FO, des fois, c'était la CFTC. Autre destruction, la séparation des branches. Donc, on a, au début, c'était une caisse unique, les quatre branches, et en séparant les branches, il peut y avoir des branches déficitaires. avant elle s'auto-équilibrait et puis voilà. Ensuite, autre attaque, la gestion des caisses qui sont confiées à une administration, à l'État en l'occurrence, et plus aux travailleurs. Donc ça, c'est quand même une grosse attaque. Il y a eu le gel des taux de cotisation, parce qu'en fait le gel des taux de cotisation, en fait la sécu a été prévue pour être pérenne, durable, et donc d'une année sur l'autre on sait exactement combien de personnes vont partir à la retraite, et donc on provisionne. C'est-à-dire que par exemple un foyer va payer 1 ou 5 euros de plus dans l'année pour que les retraités de l'année suivante soient indemnisés. Et donc, en fait, geler les taux de cotisation, c'est détruire la sécurité sociale et permettre le trou.
Liliane, elle cotise.
Il y a le coup de grâce en 95, le plan de sauvetage de Juppé, tout va vers la privatisation. Mais le trou, c'est quoi? Le film le montre quand même pas mal. Je vous spoil pas tout, mais c'est industrie pharmaceutique. 135 000 euros pour le traitement contre une hépatite C. C'est FH qui construit des hôpitaux et après qui les loue à la sécurité sociale et qui facture 17 000 euros une fenêtre réparée.
Public-privé.
C'est la dette. C'est la CSG, c'est la CRDS. La CRDS, c'est la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Le moteur du capitalisme.
Ou le remboursement contraint par des gens des taux d'intérêt inutiles au privé. Bon voilà, on va s'arrêter là. Allez voir le film, il est bien. Destruction de la sécurité sociale, destruction de la fonction publique. On va nous parler de la primaire de droite.
Bah donc c'est un autre film, hein, Démocratie mon amour, sous-titré Primaire, primate, singe savant et manipulation mentale. Donc on va vous parler des primaires, hein. Alors les primaires, c'est quoi? Eh ben c'est un truc ricain d'abord, hein. Et à l'époque, bah, c'était un truc que les partis ils faisaient entre eux. Hein. T'avais le combat des chefs, le combat des coqs. Et puis au final, t'en avais un qui émergeait. Et puis c'était le candidat. Alors, c'est quoi également? Bah, c'est l'espoir de ceux qui sont en place d'instaurer un bipartisme. Donc c'est un peu comme à la boxe. Hein. Une année, tu prends une gauche dans ta gueule. L'autre année, c'est la droite. Tu
vois, et puis, voilà, c'est pour quand l'upercute.
Et ça alterne. Donc l'objectif annoncé de la primaire, c'est de renforcer la démocratie, blablabla. Alors pour de vrai, par contre, c'est le service public qui paye, hein, ça passe à la télé, c'est nos impôts, hein, vous payez une certaine somme tous les ans pour les voir.
Si vous avez une télé.
Si vous avez une télé. Et si vous l'avez pas, faut le dire, hein, faut le dire trois fois, hein, pour pas qu'ils envoient les impôts. Hein. Et donc c'est le personnel politique en place, hein, celui qui palpe depuis 20 ans. La démocratie bourgeoise qui essaye de nous faire croire qu'en fait ils nous causent, qu'ils sont ouverts. Donc l'objectif véritable, c'est de la pub, hein, de la pub aux libéraux, aux néolibéraux, aux réac-libéraux, au mainstream politique. Et l'objectif, c'est imposer les termes du débat et préparer la population aux wagons de mesures antisociales qui vont venir. Donc ces mesures, elles ne sont pas du tout présentées comme le point de vue des laquais du CAC 40, hein, que sont les Juppé, les Sarko, les Le Maire, les machins, les trucs. Mais c'est en fait un gentil débat d'idées, très ouvert, tout le monde peut voter, tout le monde peut participer. Mmh. Et donc la question, c'est pas est-ce qu'il faut virer des fonctionnaires, mais c'est combien, d'accord? Est-ce qu'il faut en virer 500 000, est-ce qu'il faut en virer 800 000 ou 66 millions? Bon.
C'était pas le but de la loi travail, ça, de réduire des effectifs?
Ah bah non, loi travail, c'est une autre primaire, là. Tu mélanges tout. Oh là là.
Mais non, mais ce que je veux dire, privé, public, 3 ans de différence, normal, quoi.
Normal.
Ouais, c'est comme ça que ça se passe, non?
C'est ça.
Ils vont tous morfler, là, dans le public.
Bah en même temps, les mecs, ils coûtent des sous pour rien. Public, on veut bien, mais des flics, des soldats, et puis des présidents aussi. Enfin, des gars qui se présentent à la primaire, en tout cas.
Ah ouais, c'est le public.
Députés, c'est public. Ouais. Donc c'est la primaire, est-ce que ça marche? Bon bah oui, ça marche fort, hein, vous voyez, même nous on en parle. Donc ça marche mieux chez les ricains, d'accord? Mais on n'est pas encore des ricains, donc du coup le bipartisme ça marche pas trop, tu vois, il y a le FN, il y a Méluche, il y a le NPA, enfin il y a encore plein de partis en France, d'accord, ils sont pas encore interdits. Mais par contre, niveau bourrage de crâne, ouais, ça, ils sont au top, la primaire ça a vraiment bien marché. Donc faut savoir que les SOS ils vont nous faire la même, d'accord, en plusieurs tours. D'accord. Et puis il y aura pareil, il y aura des stars, des figurants, ils mettront peut-être.
Il y a des stars à gauche.
Ouais.
Ah bon.
Ouais.
Ah oui, mais Emmanuel Macron, oui, on l'avait oublié. Lui.
Il participe pas, il est pas au PS.
Ah, il est pas au PS. Ouais, il participe pas. Tout seul, il y va.
Il y va tout seul.
Bon, alors lui, il nous l'a bien mis à l'envers. Hein.
Ouais, pourtant, il est assez primaire comme type. Non, je sais pas.
Donc voilà, il y aura des stars, Macron vient à la primaire, et puis il y aura des figurants, ils mettront peut-être une femme au milieu, tu vois, pour dire que ouais...
On est... Cécile Duflot, elle est plus écolo, elle.
Ah voilà. Donc bon. Elle jouera la caution un peu féministe, hein, parce que c'est des grands féministes, le mec, hein, il n'y a qu'à voir sapin et tout, tu vois, machin.
Voilà.
Bon. Alors les primaires, bon, tout le monde l'a compris, c'est de la merde, hein. Mais ça nous apprend quand même 2-3 trucs concernant la droite, parce que là en France, y a quand même 4 millions d'abrutis qui sont prêts à payer 2 euros pour voter, pour départager une bande de pop.
Ah ouais, ça fait 8 millions pour...
Voilà, c'est ça, ça fait quand même
8, les républicains.
8 millions de thunes. Et quand même, c'est 2 pains au chocolat, quand même. Donc bon... C'est beaucoup quand même. Donc ensuite, ça nous apprend également qu'ils sont tous à chercher le nouveau Trump. Hein, qui est le nouveau Trump? Cherchons le nouveau Trump. Je suis le nouveau Trump. Tu es le nouveau Trump. Donc Sarko, il pensait qu'il était le nouveau Trump. Il a perdu, c'est pas le nouveau Trump.
Ah, il a pas la coupe de cheveux.
Voilà. Juppé, il pensait qu'il était le nouveau Trump, mais il galère un peu quand même.
Juppé, il a pas de cheveux. Il a regretté sincèrement l'élection de Trump. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Bon.
Ouais, non, mais il est peut-être plus à gauche que Fillon, lui, non? Un petit peu.
Non, là, on parle pas, on parle de la primaire de droite.
Oui, bah oui, oui, oui. Mais bon, tu sais, comme les gens, ils font des trucs bipolaires, là. Bah, tu sais, à un moment donné, peut-être qu'ils pensent qu'il est à gauche, lui. Non? Ah, bon, bref.
Bon.
Très bien.
Alors, on va pas relever Juppé à gauche, hein, d'accord? On espère juste qu'il. Peut-être un jour il
passera. Mais il est à gauche de la droite. Non, mais les gars, vous suivez pas.
Non, mais il a su mobiliser la gauche.
Voilà, oui, voilà, tout est relatif. Il
paraît que t'as pas de télé, alors arrête de dire des bêtises, quoi.
Bon. On avoue que Juppé a su mobiliser la gauche. Comme ça, on est tous d'accord.
Non, mais bon, bref. Allez.
Alors, bon, bah, ce qui apparaît, c'est que notre Trump à nous, d'accord, bah, apparemment, bah, c'est Fillon. Hein, d'accord, c'est Fillon, parce qu'il a fait plus de 40%, comme en 40. Et du coup, bon, bah, c'est Trump. D'accord, on a Fillon Trump. Et ça nous montre quelque chose, que c'est quoi un Trump? Bah, c'est pas la mèche, c'est pas le milliard, c'est pas le gros bide, mais c'est plutôt les pyramides construites par Joseph, père de Jésus, et qui servent de grenier à blé. C'est le créationnisme, c'est les chrétiens, et c'est la manif pour tous.
Et bah, c'est la droite de la droite.
C'est... Bon, c'est plutôt le... Ouais, c'est la droite de la droite, voilà. C'est la droite réactionnaire, progressiste, évolutive. C'est le bougli-bougla, en fait, de tous ces tarés.
Je viens d'entendre l'expression droite réactionnaire progressiste.
Bah, quelque part, Fillon, c'est un renouveau. Hein, d'accord, c'est ce qu'il nous dit, c'est renouveau. C'est la surprise. Le type, il a été 5 ans ministre de Sarko, tu vois. Mais il sort de son bois. Il sort de son
contre
bois.
Contre l'avortement, contre la filiation homosexuelle, contre un certain nombre de choses progressistes. Progressistes en termes de lutte, hein, pour ses droits, quoi.
C'est ça. Oh, donc, oui. Contre les fonctionnaires, hein, contre... pas contre les flics,
l'islam.
Contre l'islam, bah,
il compte... fait plus de distinction, islamisme, islam.
Ouais. Voilà.
L'islam, enfin, j'aime pas.
Voilà,
j'aime pas,
c'est
pas beau. Oh. Oh.
Donc, bah, pour conclure sur ce sujet, bon, bah, un peu flippant quand même, parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir une deuxième primaire et qu'il y a sûrement encore 4 millions de blaireaux qui vont se pointer et tout. Alors, j'ai pas vérifié si la primaire des sauces était payante.
Ils repayent? Ouais. Bah, non,
mais les socialistes, vu comme c'est parti, vu qu'ils sont au pouvoir, peut-être qu'ils vont payer pour qu'on y aille, tu vois. Et là, à la rigueur, je veux bien voir le truc.
Non, en fait, c'est comme la déculottée. Tu payes 2 euros et tu dois signer sur l'honneur, déclarer sur l'honneur que tu partages les valeurs de la droite. Donc, c'est double, double enculade.
En reculade, il y en a qu'une ça, hein. Voilà. Perso.
Donc pour rassurer
contrainte,
tout le monde.
Alors.
Ah oui, ouais, non, mais il faut préciser. C'est pas bien de dire des choses, des mots qui sont tendancieux et qui stigmatisent des populations, quoi. Bref, on est à Radio Canu quand même.
Je suis un prolétaire, moi.
Ah très bien. Alors ok.
Alors pardonnez mes deux collègues qui ont vraiment souffert que Sarkozy soit éliminé. Parce que pour de vrai, c'est tout un monde qui s'écroule quand même. Hein. Il y a le Nabo qui jarte et ça se trouve, il va finir en tôle. Donc bon, on est un peu triste quand même. En tout cas, pour ceux qui seraient tristes que le nouveau Trump français soit Fillon, ils peuvent se rassurer. Il y a encore le doute. Hein. Peut-être que c'est Marine Le Pen. Donc ça sera le coiffeur qui décidera. Et nous, on a un conseil hein, quand même pour Fillon, hein, parce qu'il paraît que c'est le pire ennemi de Le Pen, hein, effectivement, on a vu, hein, ouais. Pour tous et tout. Courage, courage Fillon.
C'est n'importe quoi. Très bien. Sans transition donc, on va parler d'un sujet beaucoup moins marrant que les primaires de droite. Donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 25 novembre se tient à Bobigny le procès de trois policiers. Ceux-ci avaient tiré au flashball à 6 reprises le 8 juillet 2009 sur un groupe de personnes qui se regroupaient devant le squat de la clinique à Montreuil, expulsés le matin même. En fait, le squat avait été évacué le matin et donc le soir il y avait un regroupement devant le squat. Et donc ils ont tiré à 6 reprises et 5 des 6 tirs ont touché des personnes sur les parties supérieures de leur corps, alors qu'il est interdit aux forces de l'ordre, aux flics, de viser ces parties-là. Et notamment Joachim Gatti a été touché au visage et a perdu un œil. Donc ce procès a lieu car plusieurs des recours... Donc ce procès il a lieu car après plusieurs recours, il n'est plus possible pour les trois flics inculpés de prôner la légitime défense qu'ils ont essayé de faire pendant un bon moment. Et suite à l'enquête, on voit bien que les policiers ont tiré au flashball sans respecter les distances requises et sans sommation. Donc les trois policiers sont donc accusés de violence suivie de mutilation ou infirmité permanente. Mais comment vont-ils bien pouvoir se défendre face aux faits qui démontre bien une violence abusive commise face à des individus non armés et non agressifs? Bonne question. Du coup, en fait, eux, ils expliquent leur geste par le fait simplement qu'ils n'étaient pas assez formés à l'utilisation du flashball. Et c'est le cas, par exemple, de Patrice L., le policier qui a éborgné Joachim Gatti, qui déplore n'avoir eu que 6 heures de formation pour savoir tirer avec un flashball, et ceci en 2006, sans avoir suivi d'entraînement depuis. Donc forcément, ça pose un petit problème. Et donc, en fait, on voit que il y a un problème et on n'est pas rassuré pour autant. Donc, en fait, ça serait pas leur faute, c'est juste qu'ils ne savaient pas viser. Donc voilà. Donc, un procès à suivre de près et voilà, on ne manquerait pas de vous tenir informés pour la suite, pour le verdict. Et on passe aux informations locales.
Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la révolte des Canuts, très célèbre, hein, où les ouvriers en soierie de Lyon se sont soulevés et ont pris pour devise « vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Ouh là là.
Oh putain.
Je la refais.
En combattant. Ah, tu
vivre en travaillant ou mourir en combattant. Et ils ont combattu. Alors ils ont combattu, ils ont été réprimés, il y a eu beaucoup de morts, mais leur mémoire a survécu jusqu'à nous. Jusqu'à cette bien-aimée radio, la plus rebelle des radios. Et voilà. Donc, en souvenir de tous ceux qui ont souffert déjà en travaillant et qui ont voulu affirmer leur dignité, affirmer leur droit à l'existence.
Donc, mais on n'est pas obligé de travailler hein, pour être digne. Hein.
21 novembre. Ah, bah, à l'époque, ça devenait galère quand même si tu n'avais pas un minimum de job. Mmh. 21 novembre 1831. C'était travailler ou crever, d'accord. Donc il fallait vivre. Ou il fallait.
Il n'y avait pas de RSA, il n'y avait pas de parents de baby boomer. C'était une autre époque. Hein.
Bah, peut-être qu'ils auraient fait des communes.
Il n'y avait pas encore l'impérialisme français, etc. Mais bon, en tout cas, vive les Canuts d'hier et de demain.
Alors, toujours sur le local, mais des choses un peu plus actuelles. La région Rhône-Alpes-Auvergne baisse les subventions du planning familial de 30%. Donc Laurent Wauquiez avait annoncé des coupes budgétaires, bah voilà, elles sont là. Il semblerait que ce soit entre autres le libre accès à la contraception, qui soit considéré comme un peu superflu. Et en fait, il a justifié en disant que de toute manière, c'était à l'État de s'occuper de ça. Et en fait, lors du vote du budget de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, il a été décidé que 30% des subventions du planning familial seraient diminuées. Et c'est principalement le pass contraception qui est remis en cause. Alors des fois, ils nient le truc. Des fois, finalement, en réunion, il redit que c'est ce pass-là qui va être remis en cause. Donc bon, c'est pas 100% sûr, mais il semblerait en tout cas... En tout cas, c'est plutôt à la mode parce que récemment, il a été supprimé en Île-de-France. Donc, c'est un pass qui existe depuis 2012 en Rhône-Alpes, pas en Auvergne, et qui permet aux titulaires d'une carte MRA, donc en gros, c'est les lycéens, les apprentis, de bénéficier de consultations et de contraception gratuites. Donc c'est entre 20 000 et 30 000 jeunes qui sont concernés par le pass. Et voilà. On espère que...
Non mais bah ouais, c'est cool, Vauquez, il est pour les aiguilles en fait à tricoter quoi. Non mais c'est vachement bien.
Ouais, non mais oui, c'est ouais. Ça, c'est ça. Mmh. Et après c'est un geste politique parce que ça a été porté par Marisol Touraine, ça a été porté par la gauche avant, donc c'est vraiment un truc pour dire ah, voilà, ils ont fait ça, bah, on va faire le contraire.
Oui, puis alors les gens ils se rendent pas compte de ce que les autres vivent quoi.
Bah, ah non, bah non. Ouais. Non, non. Cool. Ouais.
Toujours au niveau local, Radio Canut tient à saluer quand même la lutte des lycées, des collèges qui sont occupés et des écoles primaires qui sont occupées pour loger les sans-abri. Et donc il y a encore Barbus qui est occupé et les flics ont empêché l'école Servet, d'accord. Eh bien, d'accueillir et de se mobiliser. On va en rester là parce qu'on est pressé. Mais tenez bon les parents d'élèves, les professeurs, les élèves, tous ceux qui se mobilisent pour faire de l'école un vrai lieu d'accueil
les
et d'émancipation.
Aussi, les accueillis, tenez bon aussi.
Voilà, les accueillis aussi, tenez bon. Donc c'est admirable cette lutte-là. Et on voit bien que quand des personnes... de la société civile qui ne sont ni de l'ultra-gauche ni des dangereux terroristes se mobilisent pour faire respecter le droit le plus élémentaire, celui au logement, eh bien ils sont réprimés. Ils sont réprimés par la police, par la mairie de Gérard Collomb, par l'État, et que voilà, hein, il faut se bouger un peu, la France ça commence à puer grave du bec. Donc on va passer à l'agenda.
Non, juste pour finir sur toutes ces occupations, il y a un collectif Jamais Sans Toi qui existe, qui organise pas mal de goûters solidaires dans les différents établissements. Donc c'est les goûters solidaires qui en général se passent devant les établissements. Donc surtout n'hésitez pas à venir acheter des gâteaux, discuter, apporter du soutien à toutes ces personnes qui en ont besoin.
Plus il y a à manger.
Et maintenant c'est l'agenda.
Agenda.
Oui.
Agenda.
Donc, je vais vous parler de l'agenda. Donc, il y a un rassemblement contre les violences faites aux femmes le 25 novembre. Et comme j'ai le petit tract devant moi, je vais vous dire un peu de quoi ça parle. Donc, battue, humiliée, violée, la peur va changer de camp. Ce vendredi 25 novembre est la journée contre les violences faites aux femmes, aussi appelée à l'étranger, journée contre les violences masculines. Les violences masculines sont encore et toujours une réalité. En France, une femme est violée toutes les 6 minutes. Dans 9 cas sur 10, cette dernière connaît son agresseur. Ceci révèle l'importance des violences et viols conjugaux. Donc, toutes les femmes ont le droit d'exister sans avoir peur, quelle que soit leur couleur de peau, leur orientation sexuelle ou leurs vêtements. Face aux violences masculines, pas de concession, solidarité entre toutes les femmes. Donc, la manifestation contre les violences faites aux femmes en non-mixité par les personnes qui les subissent dans la société sera le 25 novembre à 19h, place Bellecour. Et il y aura ensuite un rassemblement mixte à 20h, place de la Comédie.
Comme quoi tout va mal, la Croix-Rouge fait grève et appelle à un rassemblement également vendredi 25 novembre à 10h30 devant l'hôpital des Massues.
À toi, assemblée
de lutte. J'ai pas de papier.
Jeudi 24 novembre. Une assemblée générale des luttes à la Bourse du Travail à 18h30. Donc tous ceux qui veulent créer de la solidarité, tous ceux qui veulent que les petits groupuscules, que les groupes, que les partis de gauche s'organisent ensemble pour trouver une solution et organiser une riposte face au fascisme, face à la droite, face à l'extrême droite,
créer,
face au libéralisme.
Une synergie dans les usines quand ils ont besoin de nous, on ne sait pas, il faut faire circuler, il faut y aller quoi.
Donc voilà, c'est l'heure du Front Populaire, jeudi 18h30, 24, à la Bourse du Travail.
Mais quand on fait de la lutte, il faut aussi savoir faire la fête, parce que la fête, c'est rassembleur. Alors, ce qu'on vous propose, c'est pour finir le mois de novembre libertaire, c'est de se réunir le samedi 26 novembre à 19h pour déjà prendre l'apéro, et derrière, pour écouter de la musique.
19h, les balances sont pas finies.
Hein ?
19h, les balances sont pas finies.
Oui, mais c'est pas grave. À 19h, on fait l'apéro. Et puis derrière, plus tard, dans la soirée, eh ben, on aura Zone Infinie, du punk qui vient de Saint-Etienne, Max Lampin, du rock noise instrumental, Faux Départ, du punk qui vient de Lyon. On aura Le Bonk, c'est de l'électro-brasse. Et pour commencer justement cette petite soirée, on aura Carpent, qui est un groupe de guitare manouche. Voilà, tout va bien se passer.
Ouais,
on va faire la fête.
Ciao.
Altio, à la prochaine.
Il n'y a rien d'autre.
On a encore une minute, qu'est-ce qu'on fait?
Ah bah non, c'est fini. Au revoir.